coalition des fondations françaises pour le climat présente Climat et ODD, les fonds et fondations en action.
Témoignages de fonds et fondations sur leurs engagements pour le climat.
Une collection de podcasts originaux produite par le Centre français des fonds et fondations avec le soutien de la Fondation de France.
Et réalisée par Écran Sonore.
Quel rôle pourraient ou devraient jouer les fonds et fondations dans les initiatives pour accélérer les transitions, favoriser la résilience des personnes et des sociétés les plus vulnérables face aux défis du changement climatique, tant qu'il est encore temps?
Puisqu'il est encore temps.
C'est ce que cette série de podcasts originaux propose de faire entendre.
Et c'est tout l'enjeu de la Coalition française des fondations pour le climat, la CFFC.
Créée en novembre 2020 par le Centre français des fonds et fondations, piloté par la Fondation Daniel et Nina Carasso, la Fondation de France, le Fonds Lire et Sourire et la Fondation Terre Solidaire. Plus d'une centaine d'entre elles ont rejoint cette initiative salutaire et signé le manifeste proposé par la CFFC. Il s'adresse à tous les types de fonds et fondations, quel que soit leur objet, leur forme juridique et leur taille.
Si vous souhaitez rejoindre ce mouvement ou en savoir plus sur les actions des fondations, cette collection inédite de podcasts est faite pour vous. 6 épisodes pour 6 piliers du changement contenus dans le Manifeste pour le climat. Épisode 4.
Inclure l'enjeu climatique dans les placements financiers.
Soyons honnêtes. Solution.
La transparence.
Remise en cause d'un système.
Les ODD nous invitent à changer notre regard sur la prospérité et donc à investir davantage en pensant à l'humain, au social et à l'environnemental.
Expérimenter.
Faire levier.
Allez parler à vos banquiers.
Parce que si on ne change pas la finance, nous ne changerons pas le monde.
Vraie transformation.
Intérêt général.
Utilité.
Maintenant, tout de suite, immédiatement, sinon on se tire une balle dans le pied.
Éthique.
Amour.
Morale.
Parce qu'on ne peut pas y couper.
Bonjour. Je suis Benoît Miribel, président du Centre français des fonds et fondations, le CFF. Dans ce nouveau podcast, pilier 4, nous allons parler, pour le climat, du défi climatique dans les placements financiers, pour vous, fonds et fondations. L'intégration du défi climatique dans les stratégies financières est l'un des leviers sur lesquels les fondations peuvent agir concrètement. Certaines le font déjà, mais pas suffisamment, et vous devez nous rejoindre dans cette dynamique. La philanthropie, philos anthropos, ami du genre humain, se doit de répondre à ces défis car les conséquences des dérèglements climatiques impactent durablement et fortement toutes les causes qui sont soutenues par ailleurs. Le sujet de la finance climat était non seulement au cœur des négociations climatiques de la COP26 à Glasgow en novembre, mais elle concerne aussi l'ensemble du monde des fonds et fondations. Le questionnaire de lancement de la CFFC avait mis en évidence ce besoin d'agir concrètement pour l'environnement et le climat au niveau des placements financiers. Le groupe de travail financier climat de la CFFC a été lancé pour répondre à cette demande. Les fondations répondantes déclarent qu'il leur reste encore du chemin à parcourir concernant les investissements et les placements financiers. En effet, parmi les signataires, 40% incluent de manière partielle seulement les défis et les dangers climatiques dans leur stratégie financière. Pourtant, il paraît indispensable de mettre en cohérence les dons, les soutiens que font les fonds et fondations avec aussi leurs placements financiers, d'aligner la cohérence générale de leur action. Vous allez entendre des exemples de mise en place du pilier 4, ce pilier d'inclure le défi climatique dans les placements financiers. Il permet de prendre en compte des critères environnementaux dans la sélection de vos actifs, investir dans des fonds par exemple thématiques durables et exclure des actifs basés sur des énergies fossiles, par exemple. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Bonjour, je suis Olivier Neumann, directeur financier de la Fondation de France.
On rentre avec vous, Olivier Neumann, dans le pilier
4, ce quatrième épisode de cette série consacrée justement à l'action climatique et aux fondations. Première question.
Quand on parle des placements financiers dans le défi climatique, il y a un terme qui revient souvent, c'est l'investissement responsable qui est au cœur des enjeux. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ?
Oui, l'investissement responsable doit être au cœur des enjeux d'une fondation, voire de tous les investisseurs. Il faut se repositionner sur l'évolution, ce qu'est une fondation et sur l'évolution d'une fondation. Une fondation est constituée avec un patrimoine qui lui est confié par des donateurs de leur vivant ou post-mortem. Et on a la charge d'une gestion de ces fonds pour aboutir à la cause, pour servir la cause qui a été définie par le donateur. Historiquement, il y a une quinzaine d'années, les fondations cherchaient à optimiser le rendement de leurs placements pour dégager le plus de revenus pour servir la cause. Est arrivé l'investissement socialement responsable. L'objectif était d'être en cohérence entre ses placements et sa mission sociale. On peut donner des exemples. On pouvait chercher les meilleurs rendements auprès des structures qui étaient dans les énergies fossiles, parce qu'on sait que c'est des entreprises qui distribuent de généreux dividendes. Et par ailleurs, on va aller planter des arbres pour faire face et pour couvrir les désagréments de cette énergie.
Ce qu'on nomme communément le greenwashing.
Voilà, donc ça c'était avant. Aujourd'hui, on a quand même évolué et on fait attention d'avoir des investissements qui justement soient pas en complète contradiction avec nos actions. L'étape qui a suivi et l'étape aujourd'hui qu'on voit le plus, c'est l'investissement impact. On est dans une étape autre où on se dit comment on peut être complémentaire de sa mission sociale.
Quel est l'intérêt pour les fondations de mettre en place ce type de démarche ?
L'intérêt pour une fondation de mettre en place ce type de démarche, c'est justement de mettre en cohérence ses façons d'agir et ses placements. C'est-à-dire qu'on est passé d'une position où on cherchait les meilleurs rendements à une position où on essaie d'être cohérent dans nos actions et dans nos façons de placer nos fonds. Dans une fondation, vous avez deux métiers. Donc vous avez cette gestion d'actifs qui nous a été confiée. Et de l'autre côté, le deuxième métier qui est l'action sociale et tout au moins l'accompagnement de notre mission sociale. Ces deux métiers qui ont l'habitude de travailler en parallèle, voire de ne pas échanger entre eux. Et donc tout l'objectif, c'est d'arriver justement à faire en sorte qu'on se parle et qu'on soit complémentaires dans nos façons d'agir.
La Fondation a créé un fonds à impact. Quelle est la différence avec l'investissement socialement responsable ?
Alors, on va redéfinir les termes du sujet. Un investissement socialement responsable, on recherche l'équilibre, en fait, entre la performance économique et l'éthique, le social et l'environnemental. Alors, on a différents granularités d'investissement socialement responsable et on voit qu'avec le temps, la palette devient très très large. Ça veut dire qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi. Vous pouvez aller de simplement quelques exclusions de secteurs d'activité à des solutions qui sont plus best in class et où on essaie d'être les meilleurs élèves sur les sujets, que ce soit environnemental, social ou autre. Voilà, ça c'est l'investissement socialement responsable. L'investissement impact, il y a le GIN qui a donné une... Le GIN, c'est le Global Impact Investing Network, qui a donné une définition de ce type d'investissement. Il y a trois critères qui sont importants. Il y a l'intentionnalité. C'est-à-dire qu'on doit avoir une intentionnalité d'aller dans le bon sens. Il y a un impact positif pour la société et il y a la mesurabilité en fait, de l'impact. Il faut que ces trois critères soient remplis. Et la mesurabilité doit être prise au compte par rapport aux 17 ODD fixés par l'ONU, qui est au moins une grille de lecture qui est commune à tout le monde aujourd'hui. Moi, dans cette définition en fait, des fonds à impact, je trouve qu'il y a une notion qui n'est pas évaluée aujourd'hui et qui doit être prise en compte également, c'est la durée. C'est-à-dire que pour être un fonds à impact, pour avoir de l'impact, il faut s'inscrire dans la durée. Et on voit aujourd'hui apparaître des fonds à impact de sociétés cotées. Alors moi, j'ai un petit peu de mal avec les structures cotées qui se disent à impact, puisqu'on ne se positionne pas sur la durée, mais on se positionne aux prochaines publications des chiffres trimestriels. Donc on arrive aussi maintenant à un tournant où tout le monde veut faire de l'impact, et ça risque de dénaturer un peu le sujet.
Revenons sur les fonds à impact. Est-ce que c'est une pratique répandue pour les fondations ?
Pas encore. Je pense que les fondations ont envie d'aller vers ce chemin. Plusieurs obstacles peut-être pour les fondations. Déjà, c'est un type d'investissement qui est assez récent. Donc il faut comprendre comment ça fonctionne. C'est des placements qui peuvent être assez risqués si on se trouve en investissement sur des structures non cotées. Hein, tout à l'heure, je parlais des structures cotées avec mes réserves sur le fait que ce soit des structures impact. Donc si on est sur des investissements non cotés, on est sur des investissements plus risqués. Idem, ça veut dire que c'est des placements très longs. Et le dernier obstacle que je vois, c'est la gouvernance des fondations. Les fondations ont cette culture où il faut protéger à tout prix le capital, hein, puisqu'il nous a été confié pour une mission, il ne nous a pas été confié pour spéculer dessus. Et donc prendre des risques avec ces sommes sur des produits innovants, il faut le faire accepter par les gouvernances et ça peut prendre des fois un peu de temps.
Mais les produits innovants, Olivier Neumann, quels sont-ils? Pouvoir griller des insectes au petit déjeuner, pour sauver la planète, des choses encore plus farfelues?
Alors, vous pouvez avoir ça. Alors, est-ce que ça, c'est des investissements qui seront innovants? Effectivement, la farine animale, c'est au moins... Pourquoi pas? Nous, dans notre fonds, on est investi, par exemple, dans une compagnie de taxis qui voulait passer ses taxis à hydrogène. Pour remplacer le gasoil et donc du coup être moins polluant dans les villes. Maintenant, toujours, hein, l'étape suivante, c'est très bien, l'hydrogène, c'est peut-être mieux que le gasoil. Maintenant, comment est fabriqué l'hydrogène? S'il est fabriqué avec de l'électricité qui a été produite avec du charbon, c'est pas forcément génial. Si c'est produit avec du nucléaire, on peut débattre parce que certains sont pour le nucléaire, d'autres contre le nucléaire. Si c'est avec de l'éolien, est-ce qu'on fera toujours tourner les voitures? Donc, le sujet est complexe.
Quel est le rôle de la Fondation de France dans cet accompagnement, justement? Étant donné que vous avez des fondations sous égide, j'imagine que vous avez sûrement un rôle d'accompagnement dans leur volonté d'investir, par exemple, dans des fonds à impact.
Tout à fait. Alors, on a des fondations qui sont très demandeuses de ce type d'investissement, qui sont nouveaux et qui donnent du sens à leur action. En fait, ils essaient d'avoir une cohérence entre les placements qu'on leur propose et les placements, et tout au moins leurs actions, hein, c'est toujours, on en revient toujours à ce problème de cohérence. L'avantage de la Fondation de France, c'est qu'on a une taille critique, hein, qui nous permet d'aller et de créer ce fonds, hein, puisque notre fonds Impact, on l'a doté initialement de 100 millions d'euros, donc une taille très significative qui permet de commencer à agir et à être visible sur le secteur. Exceptionnellement, d'habitude, quand on crée des fonds, nos placements, ils nous sont purement dédiés. Là, on a accepté de l'ouvrir à des investisseurs institutionnels et extérieurs, ce qui donne une plateforme qui peut avoir de l'impact vu son montant et qui est assez innovant, tout au moins par sa taille au niveau de la place de Paris.
Dans cet accompagnement vers la volonté de diriger leurs fonds vers des fonds à impact, les fondations doivent établir des critères pour savoir comment ils vont tourner leurs investissements? Est-ce que la Fondation de France a un rôle à jouer dans cet accompagnement-là?
Plusieurs éléments de réponse. Premier élément de réponse, je vais réexpliquer ce que c'est qu'une fondation abritée. Hein. Une fondation abritée, c'est qu'une affectation analytique. Elles n'ont pas la personnalité morale. Donc en fait, c'est des échanges avec les fondateurs. Et à l'arrivée, c'est la Fondation de France qui arbitre les placements. Donc nous devons... conseiller, accompagner, expliquer en fait à nos fondateurs l'intérêt d'aller sur ce type d'investissement. Autre particularité, c'est que les investissements à impact, comme je vous le disais, il y a une notion de durée. Il faut qu'on vérifie avec les fondateurs leurs objectifs, leurs horizons de placement pour être sûr que ce soit compatible avec l'action qu'ils veulent mener. S'ils ont des horizons de placement de 5 ans, je ne vais pas leur proposer un investissement à impact qui doit avoir une durée qu'on estime au moins de 10 ans pour commencer à être significatif. Donc on regarde les sommes qu'ils ont disponibles à un horizon de plus de 10 ans et c'est cette partie des sommes qu'on peut placer sur des horizons longs, donc sur de l'impact. Au niveau de la Fondation de France, le comité financier de la Fondation de France a fixé des limites, hein, parce qu'il y a aussi la problématique du risque, vu qu'on est sur des produits plus risqués que les autres. On a fixé le plafond à 20% d'actifs illiquides, ou à faible liquidité. Donc ça doit aussi rentrer dans cette enveloppe d'actifs à faible liquidité, qui comprend l'immobilier et les investissements à impact. Donc voilà les critères, déjà, les premiers critères techniques sur lesquels on limite les investisseurs. Après, il faut rappeler que la Fondation de France, on est la fondation de toutes les causes. Donc toutes les causes, on va avoir des investissements qui vont être dans la partie sociale, mais on va avoir aussi des investissements sur la partie, bien sûr, environnementale, hein, qui est le sujet du jour. Le sujet, c'est qu'on se retrouve des fois avec des fondations abritées qui voudraient investir juste sur leur thématique. Et là, aujourd'hui, nous, on n'a pas les produits nécessaires. Alors, il est toujours possible d'aller sur des produits extérieurs aux produits propres de la Fondation de France, mais ça complique énormément la gestion pour nous.
Est-ce qu'il y a une idée un peu de pédagogie, finalement, dans votre accompagnement avec eux ?
Alors oui, il y a des questions de pédagogie, c'est-à-dire qu'on est, faut leur expliquer les conséquences de ce type d'investissement. Bien leur expliquer, justement, je reviens dessus, sur la faible liquidité et sur la durée. Et leur faire accepter qu'ils prennent un risque en faisant ce type d'investissement. On est encore dans cette activité qui est la gestion d'actifs, ce métier de gestionnaire d'actifs qu'est une fondation. On n'est pas dans la mission sociale. Donc on est encore sur cet aspect-là. On est sur deux terrains. Aujourd'hui, une des questions, c'est comment on arrive à faire converger vraiment les deux aspects. Là, on est dans la gestion d'actifs. Donc il faut qu'on leur donne... Moi, en tant que directeur financier, je dois leur expliquer qu'ils prennent des risques. Je dois leur expliquer quel niveau de risque pour pas qu'ils soient surpris derrière, parce que nos fondateurs ne sont pas tous des financiers.
Est-ce qu'ils sont prêts ? Je sais. J'imagine qu'ils ont tous la casquette de l'humaniste et du philanthrope à prendre des risques, justement, pour cette planète, dans l'optique de la léguer à leurs petits-enfants.
Alors, je vais mettre les pieds dans le plat. Non. Non, alors j'allais dire bien sûr que non. On est la fondation de toutes les causes. Donc vous avez des fondateurs qui effectivement sont très sensibilisés à ce sujet de l'environnement et qui veulent à tout prix des investissements verts. J'ai des fondations qui me donnent dans le cahier des charges de la gestion de leur fondation où ils veulent absolument pas d'investissements carbonés. Il y en a d'autres dont la famille a fait fortune dans l'industrie et pour lesquels ce n'est pas le sujet. Leur sujet, ça va être une autre cause. Donc voilà, on doit accepter la totalité des intentions de nos philanthropes. Après, c'est à nous de les accompagner pour faire évoluer leur position sur le sujet. On vérifie chaque année, en fait, nos expositions aux énergies fossiles, vérifier que nos portefeuilles de façon globale est, entre guillemets, propre. On n'a pas l'intention d'avoir un portefeuille irréprochable, ce serait se mentir, mais on essaie d'être dans la bonne trajectoire. C'est la trajectoire qui importe et on essaie d'accompagner tout le monde vers une trajectoire, une bonne trajectoire. On n'a pas d'investisseur qui aujourd'hui a des demandes qu'on refuse parce qu'ils seraient totalement incompatibles avec les valeurs de la Fondation de France. Donc on arrive à les accompagner, il y a des sensibilités, on doit répondre à toutes les sensibilités.
Ce que vous disiez tout à l'heure, l'important c'est la complémentarité. Alors comment on y arrive ?
Alors je disais la complémentarité, la trajectoire. Comment on y arrive ? C'est les petits pas. On y arrive déjà en se mettant des indicateurs, parce que le fait de se mettre des indicateurs et de suivre aujourd'hui, quand je suis l'exposition carbone de l'ensemble de mon portefeuille, j'ai toujours, ça donne envie de faire mieux. Donc sans se mettre des objectifs, de se mettre des indicateurs de suivi fait que mécaniquement on va vers l'amélioration. C'est aussi de la pédagogie d'aller vers nos fondateurs, même s'ils sont pas, ils veulent pas aller trop loin, on arrive quand même à les guider pour baisser un peu les expositions et pour aller vers des portefeuilles qui sont de plus en plus verts.
On va revenir sur les critères ESG et les critères ISR. J'aurais besoin d'une petite explication.
Alors, les critères ESG, environnement, social et de gouvernance, en fait, on se fixe des enjeux d'amélioration de ces différentes thématiques. J'ai pas d'idée de critères spécifiques. On se fixe des enjeux, on n'est pas dans les critères quand on est dans l'ESG. L'ISR, donc investissement socialement responsable, là, on commence à se fixer des critères d'évaluation. Tout au moins, le champ des possibles est très vaste et on trouve du vert clair, vert foncé, du social clair, du social foncé. Tout dépend la sensibilité de chacun sur le sujet. Plus on met, ça c'est ma conviction propre, plus on se met de critères, en fait, plus on dilue l'impact, tout au moins l'efficacité, et à la sortie, moins on est efficace, en fait. Ça c'est. Voilà. Donc je pense qu'il faut restreindre le nombre de critères si on veut être efficace. Je vois des gérants qui arrivent en me présentant, on a 40 critères, 100 critères. En fait, si on a 100 critères, ça fait 1% chacun, ça ne veut plus rien dire. Donc voilà, il faut rester sur des choses assez claires, assez macro. Et je pense que c'est là où on est le plus efficace.
Est-ce qu'il est possible d'arriver à une totale neutralité d'impact concernant les portefeuilles des placements des fondations ?
Alors, soit je suis hypocrite et je dis oui. La réalité, c'est non. Pour la Fondation de France, je vous l'ai expliqué, on a des sensibilités différentes qui ne peuvent pas nous y amener. Et on ne cherche pas à y aller non plus juste pour y aller. Je pense que le vrai sujet, c'est l'évaluation. On a des critères d'évaluation qui varient suivant les organismes qui notent. On a essayé d'étudier est-ce qu'on allait créer un fonds à 1,5 degré pour le réchauffement climatique. Et quand on voit les différents cabinets qui font les notations, sur un même portefeuille, vous pouvez avoir des écarts très significatifs. Donc, trop d'écart décrédibilise, à mon avis, les notations. La tendance, et j'avais eu un exemple où on m'avait présenté plusieurs dossiers d'affilée, et il y avait un dossier où la structure, c'était une entreprise qui proposait l'ingénierie pour mettre en place des panneaux photovoltaïques, et il nous disait, bah voilà, grâce à mon travail, on va générer tant de tonnes d'économies de CO2. Et puis, deux dossiers plus tard, on me présentait une structure qui exploitait des panneaux photovoltaïques. Et là, on me disait, bah, grâce à mes panneaux, moi, j'économise tant de tonnes de CO2. Et là, je me suis dit, mais comme les dossiers étaient très proches, ça m'a fait tilt dans la tête. Je me suis dit, mais on m'a vendu deux fois les mêmes tonnes de CO2, là. Donc oui, alors, si on fait ce type de calcul, je peux arriver à la neutralité parce qu'il n'y a plus de carbone dans l'atmosphère. On l'a vendu plusieurs fois. La réalité, c'est qu'il faut se méfier des évaluations. Elles ont tendance, chaque structure a tendance à s'accaparer la totalité de l'impact. Il faut rester modeste. Nous, on communique peut-être assez pas assez ou très peu sur le sujet, parce que le greenwashing, l'impact washing, on préfère faire que se faire prendre les pieds dans le tapis à ne pas faire.
La Fondation de France a pour volonté de financer des projets en collectif, de développer le cofinancement. En quoi cela consiste ?
La façon dont le sujet se pose aujourd'hui, c'est qu'on veut accompagner nos associations autrement que par de la subvention. On voit bien que les associations ont d'autres besoins que simplement des subventions. Elles ont besoin, si elles veulent changer d'échelle, de renforcer, alors je vais être technique, mais elles ont renforcé leur fonds propre, donc leur haut de bilan, pour se permettre, en fait, derrière, de faire appel à des financements plus classiques tels l'emprunt. Et pour accompagner ces associations, c'est justement le fait de se rapprocher de plus en plus la gestion d'actifs d'une fondation avec sa partie mission sociale, c'est effectivement de travailler en commun entre les différentes directions pour avoir une action plus concrète auprès de ces associations. Donc l'idée, ça a été de chercher de nouvelles pistes, de sortir de la gestion d'actifs telle qu'elle existait dans nos fondations abritées, et d'aller vers des outils tels que les apports associatifs. Alors vous allez avoir des apports associatifs avec droit de reprise ou sans droit de reprise, d'aller sur des prêts participatifs, c'est-à-dire de rentrer dans des structures, dans des financements de structures qui ne sont pas des financements classiques de gestion d'actifs. Pour schématiser, quand on est dans de la gestion d'actifs classique, on est au niveau du bilan de notre fondation. Quand on est au niveau de la mission sociale, on était au niveau du compte de résultat. Et donc, moi, quand je parle de la gestion d'actifs de la fondation, je parle avec un comité financier. Donc, c'est des banquiers qui sont près de la table. Donc, les banquiers, ce n'est pas les mêmes personnes avec qui on parle de versement de subventions. Ce n'est pas le même métier. Et là, l'idée, c'est d'arriver justement à faire que nos investissements viennent accompagner ces associations. Donc, ne plus parler avec, quelque part, nos banquiers, mais de parler avec les porteurs de projets et venir directement financer les porteurs de projets pour qu'eux, après, ils puissent aller voir les banquiers.
Avez-vous un exemple à nous donner ?
Alors, la première fois qu'on a testé ce type d'action, c'est dans un cadre très particulier. Hein, c'était dans le cadre des suites de la crise sanitaire du Covid. On a été approché par France Active, qui voulait faire un plan de relance pour le monde les structures de l'ESS. Elles avaient été secouées dans le cadre de leur financement et elles avaient besoin, ces structures de l'ESS, de refinancer leurs emprunts et leurs besoins. Donc il y a France Active lançait un fonds pour soutenir ça. Et donc on est rentré aux côtés de la Banque des Territoires à l'époque par un apport associatif pour renforcer les fonds propres de France Active qui... France Active elle-même allait accompagner les associations pour renforcer et sécuriser leur situation financière. Donc ça a été la première fois où on l'a fait. Et on a présenté ça à notre conseil d'administration comme un complément de notre mission sociale. C'est-à-dire on était dans notre mission sociale de soutenir les associations et on n'était pas dans notre gestion d'actifs. Donc là, on était vraiment, on plaçait des fonds avec l'argent. On espère que l'argent va revenir, hein, que les associations ne seront pas cassées la figure, qu'elles pourront nous rembourser. Mais on était là, on était aux côtés des structures pour les soutenir. Les sommes que nous récupérerons pas, parce que certaines associations vont faire défaut, ça sera considéré comme de la mission sociale, parce qu'on était vraiment dans notre cœur de métier.
Et vous considérez que sur ces questions-là, c'est le rôle de la Fondation de France ?
Je pense que c'est le rôle de la Fondation de France et c'est assez novateur. D'autres investisseurs ne peuvent pas se permettre de dire « je mets des fonds pour soutenir une association et si les fonds ne reviennent pas, s'il n'y a pas de retour, je vais perdre mon capital ». Nous, si on perd notre capital, en fait, on voit pas la chose comme ça. On se dit, habituellement, on accompagne les associations en versant des subventions. Donc, c'est un fusil à un coup. Avec ce type de financement, ça peut être un fusil à plusieurs coups. C'est-à-dire que, au mieux, l'argent nous rentre, nous revient, et on pourra refinancer une autre association avec l'argent qui pourra être réutilisé. C'est un peu cette approche-là. Alors, c'est peut-être un peu imagé ce que je viens de dire, mais c'est un peu cette idée. C'est de dire un même euro peut peut-être servir plusieurs fois avec ce nouveau outil. Et des investisseurs institutionnels, des investisseurs particuliers auront plus de mal, je pense, à aller sur ce type d'outils. On a un rôle moteur sur ce niveau. Et là, on change de dimension en termes d'impact dans nos investissements.
Bonjour, je suis Marie-Stéphane Maradex, déléguée générale de la Fondation Daniel et Nina Carasso.
Marie-Stéphane Maradex, agir pour le climat quand on est une fondation, c'est aussi agir sur la manière dont on place ses fonds. Et à la Fondation Daniel et Nina Carasso, vous vous y êtes employés. Par quoi on pourrait commencer ensemble, puisque c'est une question clé ?
Alors, la Fondation, nous avons commencé par signer l'engagement international qui s'appelle Divest Invest, qui est un engagement dans lequel nous avons, comme on dit, décarboné notre portefeuille d'investissement, c'est-à-dire que nous renonçons à tout investissement dans les énergies fossiles. Donc, nous avons commencé par cela. Cela concernait au départ, en fait, 5% de nos investissements n'étaient pas trop impactés. Mais le deuxième volet de cet engagement, c'est d'investir au moins 5% de son portefeuille dans des solutions vertes, bas carbone, etc. Donc, nous avons commencé comme ça. Nous avons ensuite écrit, en 2016, une charte d'investissement dans laquelle nous avons fixé un petit peu le périmètre à la fois de nos exclusions, dont les exclusions dans les énergies fossiles, mais également des domaines dans lesquels nous souhaiterions progresser, et en particulier, en lien avec l'objet de la Fondation sur les systèmes alimentaires durables, un effort tout particulier sur les investissements dans cette voie-là. Nous avons donc décidé de créer un fonds à impact, investissement à impact, dédié à l'alimentation durable. Il y a également une autre stratégie qui est de se dire, d'investir dans des investissements dits ISR, donc investissement socialement responsable, qui est, j'ai envie de dire, un peu la première étape d'un portefeuille qui soit cohérent avec sa mission sociale.
Allons concrètement au fond des choses. Prenons un exemple, Marie-Stéphane Maradex, d'une initiative que vous avez soutenue, par exemple celle qui concerne un projet autour de l'aquaculture, si vous l'avez en tête, mais ça peut être bien d'autres dans ce cadre-là.
Alors, nous avons investi dans un fonds qui s'appelle Aquaspark, qui est un fonds d'aquaculture durable et qui a la particularité d'être totalement en phase, alors avec un nom barbare qu'on appelle la théorie du changement. En gros, c'est ce qui structure la mission que l'on se donne en tant que fondation, c'est-à-dire la compréhension des besoins auxquels on veut répondre et surtout la compréhension des leviers pour y arriver. C'est ça la théorie du changement. Donc nous, notre théorie du changement, c'est une transition vers des systèmes alimentaires plus durables et on a choisi un certain nombre de leviers pour y arriver. Et finalement, l'investissement à impact est un de ces leviers. Et donc pour revenir à ce fonds Aquaspark, il propose effectivement d'investir tout au long de la chaîne de valeur de l'aquaculture dans des entreprises qui vont garantir une aquaculture plus durable, c'est-à-dire une aquaculture qui soit plus plus respectueuse des hommes et de la planète. Il faut savoir qu'il y a une croissance très forte de ce qu'on appelle des protéines animal et en particulier halieutique, donc apporté par les poissons dans le monde, et que l'aquaculture, puisque la pêche sauvage est en raréfaction, l'aquaculture apporte cette réponse, mais qu'elle est extrêmement polluante. Et donc, Aquaspark propose d'investir à la fois dans des entreprises qui vont, par exemple, inventer des techniques pour nourrir les poissons au bon moment, hein, et non pas comme on le fait actuellement, de déverser, on va dire, les granulés qui parfois reviennent eux-mêmes, d'ailleurs des granulés d'origine animale, mais vraiment des systèmes de manière à ne pas polluer les eaux. Ils vont bien sûr investir dans des parcs aquacoles durables, ou ils vont investir dans des entreprises qui font justement de la nourriture pour ces poissons et qui soient moins impactantes pour l'environnement.
Les fondations ont toujours généralement peur du risque.
Bah, de toute façon, le risque est une composante de l'investissement. Je veux dire, maintenant, ça a été, je crois qu'il y a des économistes, et il y a eu un prix Nobel là-dessus qui a intégré la notion de risque dans la notion d'investissement. C'est vrai que l'investissement à impact pourrait être plus risqué, mais encore une fois, et je reprends mon exemple d'aquaculture, quand vous avez des investissements qui sont cohérents avec votre mission finalement, avec la thématique que vous cherchez, il y a des acteurs économiques qui sont aussi avec cette recherche de faire perdurer notre planète. Donc on peut trouver, il faut les chercher, mais on peut trouver des solutions avec le même niveau de risque, on va dire, qu'un investissement standard, mais qui propose une solution d'impact au regard de votre mission sociale. Que ce soit dans le logement, on a investi par exemple dans un fonds, alors nous c'est pas notre spécialité le logement pour les sans-abri, mais nous avons investi dans un fonds à impact qui propose des solutions d'hébergement qui ne soient pas des chambres d'hôtel pour des personnes, alors soit des personnes migrantes, soit des personnes à la rue, et sur un modèle économique tout à fait tenable. Voilà, donc il y a des solutions, il faut les chercher, il y a de plus en plus de gestionnaires qui proposent, par contre, il faut bien les étudier. Et alors pour revenir au climat, si je puis me permettre, il y a quand même un nouvel outil que propose l'Union européenne qui s'appelle la taxonomie, encore un nom barbare, mais qui est en fait une espèce de catégorisation des grands enjeux climatiques, dans lesquels les investisseurs peuvent choisir d'investir, puisque les propositions d'investissement vertes maintenant vont se référer à cette taxonomie qui va dire il y a une partie sur l'énergie, une partie sur les mobilités, une partie sur le bâtiment, etc. Et donc les fonds vont être en conformité avec cette taxonomie. Et ce qui est intéressant dans cette catégorisation, on va dire, des grands enjeux climatiques, c'est que surtout les propositions de fonds doivent également garantir que si vous investissez dans un domaine, ce domaine n'est pas dommageable pour les autres domaines. C'est-à-dire que si vous investissez par exemple un projet dans l'énergie, eh ben il ne faut pas qu'il soit dommageable pour l'eau, pour l'habitat, etc. Donc c'est vraiment une, alors c'est assez complexe, mais au moins ça apporte une espèce de garantie que l'investissement vert n'est pas d'effet secondaire dommageable pour la planète au-delà de son objet même, si je puis dire.
Bonjour, je suis Gilles Vermeux-Desroches, directeur de la citoyenneté et des affaires institutionnelles de Schneider Electric. Je suis aussi le président du fonds à impact de Schneider Electric.
Pouvez-vous, Gilles Vermeux-Desroches, nous parler de ce que l'on nomme désormais l'investissement à impact? Est-ce quelque chose que vous pratiquez au sein de la fondation Schneider Electric?
Alors, la fondation Schneider Electric mobilise l'entreprise pour l'accompagnement des jeunes pour qu'ils trouvent leur futur, et ce faisant évidemment sur les enjeux climatiques qui sont centraux aujourd'hui à la fois dans les projets que portent les jeunes, mais aussi dans les sujets à résoudre et les défis à résoudre pour leur permettre d'avoir une planète viable. Et très rapidement, cette mobilisation dans la fondation nous a poussé à créer d'autres outils, dont des fonds à impact. Pourquoi ? Parce que les collaborateurs qui contribuent à la fondation, en donnant du temps, des compétences, de l'argent parfois, en étant eux-mêmes partenaires des projets qu'on supporte, ont voulu aussi utiliser cette démarche démarche d'investissement. Et donc, nous avons créé plusieurs fonds à impact. Le premier, avec les collaborateurs de Schneider Electric, qui versent ce qu'ils souhaitent de leur intéressement, de leur participation ou de manière libre, a été aussi créé par un cofinancement de la fondation Schneider Electric, qui a investi dans ce fonds. Ce fonds, aujourd'hui, est une tête chercheuse, un lieu d'innovation pour accompagner à la fois des structures nouvelles et aussi des technologies et des méthodes nouvelles pour les personnes qui sont en précarité énergétique et singulièrement ceux qui sont dans des logements très précaires, afin qu'ils n'aient pas la double peine à la fois d'être dans des mauvais logements précaires et de payer très cher une énergie qui va s'évaporer. Donc nous soutenons un certain nombre d'acteurs de l'ESS sur ces sujets-là, et puis dans le monde aussi d'autres acteurs pour l'accès à l'énergie et des technologies nouvelles sur l'accès à l'énergie en Afrique, en Asie. Voilà, ce fonds à impact est là à la fois pour témoigner que l'on peut travailler entre des collaborateurs, une fondation, une entreprise et de nouveaux acteurs de l'économie sociale et solidaire mobilisés sur des enjeux du bien commun et les accompagner pour accélérer et faire levier sur les activités qui sont les leurs. On a aussi investi en cohérence avec cette démarche-là dans un fonds carbone avec d'autres entreprises qui s'appelle Livelihood, l'occasion d'accompagner dans le monde des ONG qui, auprès de populations plus pauvres, en Casamance, au Kenya, en Inde, leur permet à la fois de vivre mieux, avoir une forêt, une mangrove, des foyers améliorés et de nous rétribuer par les crédits carbone obtenus par cette évolution locale.
Qu'en d'autres termes, on pourrait appeler ce que vous appelez à la fondation Schneider Electric des fonds d'investissement solidaires.
Voilà, on a aujourd'hui plusieurs noms pour parler de logiques qui sont proches. On a ce fonds investissement solidaire qui est doté par l'entreprise, sa fondation et les collaborateurs et puis des partenaires. Puis après, on a des fonds à impact ailleurs dans le monde, dotés un peu différemment parce que les lois sont un peu différentes. Mais tout ça va dans le même sens. On ne peut pas s'occuper de l'environnement sans s'occuper de l'humain. Et pour s'occuper de l'environnement et de l'humain et permettre d'être à la hauteur des challenges que repèrent les 17 objectifs du développement durable, il est aussi question d'innovation et il est aussi question d'agenda des solutions. On avance sur ce sujet-là et sur la manière de former des jeunes pour qu'ils soient en capacité d'être innovants.
Il est aussi question, Gilles Vermeaux-Desroches, de critères. Il y a des critères qu'il faut respecter pour être à l'intérieur d'un fonds solidaire, en bénéficier. On peut les énumérer, les principaux, ces critères ESG, environnementaux, sociaux et des critères de gouvernance que vous avez spécifiquement visés.
Oui, alors on a plusieurs critères qui sont les critères légaux. Il y a des critères à la fois sur le fond et à la fois sur l'activité du fond. Voilà, sur le fond, sur l'équipe du fond, comment elle est constituée, comment elle-même est un lieu d'insertion. Et puis sur l'objet du fond, qui est d'accompagner des structures de l'économie sociale et solidaire qui acceptent ce type d'investissement et d'accompagner aussi, évidemment, des projets ou des métiers qui concourent au bien commun. Ceux du fonds que porte Schneider Electric sont liés en Europe à la réduction de la précarité énergétique et ailleurs dans le monde à l'accès à une électricité propre pour ne pas endommager le climat et au contraire le préserver.